Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Depuis le début de l'année, les avortements sont remboursés à 100% par la sécurité sociale, c'est une nouveauté. Et à partir du mois prochain, mois de mars, pour inciter la pratique d'avortement, leur prix sera revalorisé de 50% afin qu'ils rapportent plus aux médecins qui les réalisent. Ce mardi, dans 2 jours donc, l'Assemblée nationale va vraisemblablement approuver le projet de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Et la France, à la suite de quelques autres pays, petite douzaine, va ainsi décréter légalement que 2 personnes de même sexe pourront être parents, bien qu'au niveau de la logique, de l'étymologie et de la nature, ce ne soit pas du tout possible. Mais le gouvernement a décidé que ce serait possible. Alors, ok. Georgina Dufoy, ancienne ministre socialiste de François Mitterrand, déplore quant à elle le fait que, et je cite, la théorie du genre, elle déplore le fait que la théorie du genre soit insufflée dans la société française. Une théorie, si vous en avez jamais entendu parler, j'explique, c'est une théorie qui affirme qu'on ne naît pas garçon ou fille, mais que on devient l'un ou l'autre, au choix, en grandissant. Et c'est une théorie qui a commencé à être enseignée dans les manuels scolaires de SVT, Sciences de la vie et de la terre, depuis peu de temps au lycée. Il y a une dizaine de jours, la députée Sandrine Mazetti a déclaré avoir saisi le gouvernement pour changer le nom de l'école maternelle. Un nom qui, d'après elle, renvoie trop à l'image de la mère. Alors on va changer le nom, on va plus appeler ça l'école maternelle. En tout cas, c'est son idée, c'est ce qu'elle souhaite. On va appeler ça la première école ou quelque chose dans ce genre-là. Jacques Attali, conseiller d'État bien connu, a déclaré le 4 février dernier qu'il fallait, je cite encore, enlever de notre société laïque les derniers restes de ces désignations d'origine religieuse. Et donc, Jacques Attali, qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise, par exemple, de remplacer le nom de Noël par la fête de l'enfant, la fête des enfants, pardon. Et le nom de Pâques, il veut remplacer ça par fête de la liberté. Et tout dernièrement, le Premier ministre et le maire de Paris ont donné leur feu vert pour l'ouverture dans la capitale de ce qu'on appelle des salles, enfin une salle de shoot, une salle de shoot expérimentale, c'est-à-dire un endroit où pourront être accueillies 200 personnes par jour, 7 jours sur 7, pour qu'ils puissent s'y administrer de la drogue en toute sécurité à l'aide d'encadrants et d'infirmières, payés par vos impôts et les miens. Et devinez quoi? Ce projet d'expérimentation est piloté par une association appelée comment? Appelée Gaïa, du nom de la grande déesse mère du paganisme. C'est génial ça! Et qu'est-ce qu'il y a encore au programme, d'après vous, des discussions de nos gouvernants pour les mois qui viennent? Procréation médicalement assistée pour tous. Légalisation, peut-être, des mères porteuses. Euthanasie, suicide assisté, entre autres. Tout va bien? Alors, je ne sais pas, bien sûr, ce que vous pensez à titre personnel de tous ces sujets que j'ai mentionnés. Mon but, en vous faisant ce petit topo, ce n'est pas de provoquer un débat d'ordre purement politique, hein. Mon but est bien plutôt de soulever la question suivante. Que penser de l'évolution rapide de notre société, notamment en tant que chrétien? J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, j'imagine si vous êtes un peu comme moi, vous êtes probablement un peu inquiet en ce qui concerne l'avenir. Peut-être que vous êtes inquiet pour l'avenir de vos enfants quand vous constatez l'évolution rapide et assez radicale de notre société. Peut-être même êtes-vous inquiet pour l'avenir de votre foi et de la foi de vos enfants, de vos petits-enfants, et ainsi de suite. Est-il possible, à cause des changements radicaux que notre société est en train de subir, est-il possible que l'Église, le peuple de Dieu, les croyants soient finalement engloutis par le monde qui les entoure? Alors c'est vrai que si vous êtes croyant, j'imagine, hein, je présuppose, j'en sais rien en fait, mais j'imagine que vous êtes probablement en désaccord avec pas mal de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et depuis quelque temps dans notre pays. Mais est-il possible que vous finissiez par être emporté vous aussi par le courant? Le texte qu'on va lire et étudier aujourd'hui parle de cette question et de cette inquiétude à mon avis. C'est un texte qui veut aider les hommes à savoir comment réagir vis-à-vis d'une société qui part dans tous les sens, si j'ose dire, qui part en vrille, comme on dit, en cacahuète. Et voici ce que nous enseigne ce texte et qu'on va voir dans un petit moment, je l'espère, si vous suivez. Ce qu'on va voir, c'est une affirmation formidable, en fait. Et j'espère qu'elle va vous encourager comme elle m'a encouragé quand j'ai étudié ce texte. Et c'est la suivante. Si votre vie appartient à Dieu, celui-ci a garanti votre avenir. Si votre vie appartient à Dieu, Dieu a garanti votre avenir. Et il y a trois affirmations qui peuvent caractériser votre avenir. Ce sont les trois points qui sont dans vos bulletins. Pas de danger, pas de surprise et pas d'injustice. Alors on lit le texte. Il s'agit du psaume 125, ce que je disais tout à l'heure. Psaume 125. Un cantique des montées. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies tortueuses, que l'Éternel les emmène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. On va regarder ce texte un peu plus en détail, mais d'abord, prions. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, au moment où nous allons méditer ce texte qui a été inspiré par toi. Aide-nous à bien le comprendre. Aide-nous à en accepter et à en recevoir les enseignements. Pour que par la puissance de ton esprit, Seigneur, tu nous transformes. Au nom de Jésus. Amen. Si ta vie appartient à Dieu, Dieu a garanti ton avenir. C'est formidable ça. Il a garanti ton avenir. Et la première chose que fait le psalmiste dans ce texte, c'est nous dire que si notre vie appartient à Dieu, on peut effectivement envisager l'avenir avec confiance parce qu'il n'y a pour nous, en fin de compte, pas de danger. C'est mon premier point, pas de danger. Et vous avez vu ce qui se passe versets 1 et 2. Le psalmiste utilise le relief de la capitale d'Israël, de Jérusalem, comme image de la sécurité spirituelle des croyants. Et le texte est en train de nous rappeler ici une réalité qu'on a déjà évoquée dans le cadre de cette série, parce qu'on la retrouve dans quelques autres psaumes, notamment des psaumes qui viennent avant celui-ci. Et cette réalité, c'est que quoi qu'il arrive, même si les problèmes, les souffrances, les épreuves sont une réalité ordinaire de notre existence, malgré cela, quoi qu'il arrive, les croyants sont en fin de compte en parfaite sécurité. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le mal qui triomphe du croyant, mais Dieu qui triomphe du mal en faveur du croyant. Pour cela, je vous renvoie notamment à la prédication sur le psaume 124 et aussi à celle sur le psaume 121. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Pourquoi le psalmiste peut-il affirmer une chose aussi radicale, aussi formidable ? Eh bien parce que Dieu s'est engagé solennellement à préserver éternellement le peuple qui lui appartient. Dieu s'est engagé solennellement à préserver éternellement le peuple qui lui appartient. Et en y réfléchissant à cette réalité, ça m'a fait penser à ce qui est écrit sur certains passeports, notamment sur les passeports américains. J'ai regardé, ce n'est pas le cas sur les passeports français, mais sur les passeports américains, en première page, voici ce qui est écrit. le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique prie par les présentes toutes autorités compétentes de laisser passer le citoyen ou ressortissant des États-Unis titulaire du présent passeport sans délai ni difficulté et en cas de besoin de lui accorder toute aide et protection légitime. Je ne sais pas si vous avez bien écouté, mais si vous avez bien écouté, vous devriez trouver ça génial d'avoir le secrétaire d'État des États-Unis en personne, himself, qui plaide en votre faveur sur un papier qui vous appartient. C'est un peu la garantie pour vous, si vous êtes citoyen américain en tout cas, que vous êtes en tout temps, à condition d'avoir votre passeport sur vous, en tout temps sous la protection des autorités de votre pays. Et de la même façon, les croyants ont un genre de passeport eux aussi. Mais l'inscription en première page n'a pas pour auteur le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Mais cette inscription en première page a pour auteur le Fils éternel et bien-aimé de Dieu, et il l'a écrite avec son propre sang. Et c'est Jésus, en effet, le Fils éternel de Dieu, qui plaide en faveur des croyants, en permanence. Il intercède pour nous, il plaide notre cause. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a payé lui-même le prix de notre délivrance, c'est-à-dire le prix de notre sécurité. La Bible explique que Jésus est venu dans le monde de la part de Dieu le Père, exprès pour réaliser le salut éternel, définitif, complet, total, de tous ceux qui placent leur foi ou leur confiance, si vous préférez, en lui. Et pour réaliser cela, j'espère qu'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, mais si c'est nouveau pour vous, ouvrez grand les oreilles. Pour cela, Jésus a souffert, il est mort, il est ressuscité, il a pris sur lui, en mourant sur la croix, tout ce qui nous séparait de Dieu, pour que nous soyons délivrés de ces choses. Et pour que nous soyons pardonnés de ces choses. Et par conséquent, pour que nous puissions appartenir pleinement à Dieu et être assurés de recevoir la vie éternelle. Être assurés un jour de vivre éternellement en la présence de Dieu, notre Créateur, dans sa présence lumineuse. Donc, je m'excuse un peu pour cette illustration, bon, quelque peu simpliste, mais quand on a placé sa confiance en Jésus, et si c'est votre cas aujourd'hui, sachez que vous avez reçu un genre de passeport spirituel. C'est le passeport du Saint-Esprit, tamponné par Dieu le Père, avec le sang de son Fils. Et c'est ça qui fait dire au psalmiste, dans ce psaume, versets 1 et 2, que ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent pas, et subsistent à toujours, parce que vous vous rendez compte du passeport qui est dans leur poche. Vous vous rendez compte de qui plaide leur cause, qui plaide en leur faveur. Le Fils éternel de Dieu. Il a écrit cette garantie avec son propre sang. Et c'est ce qui fait dire aussi au psalmiste que l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Il s'est acquis ce peuple. Ce peuple lui appartient. Et donc vous voyez que dans un premier temps, ce texte nous montre que face, si vous voulez, aux incertitudes, aux vicissitudes du monde et de l'histoire, eh bien si notre vie appartient à Dieu, nous pouvons envisager l'avenir avec une entière confiance, une confiance bien fondée, parce qu'il n'y a pour nous, en fin de compte, pas de danger. Pas de danger pour les croyants. Et donc, vous voyez, on a besoin de réfléchir à ça lorsqu'on s'inquiète de l'avenir. Quand on s'inquiète de l'avenir de notre société, de l'évolution rapide, radicale de notre société, notamment ces derniers temps, on a besoin de se souvenir de ça. Pour les croyants, pas de danger, en fin de compte. On devrait idéalement passer autant de temps à méditer les promesses de l'Évangile qu'à regarder la télé ou à lire le journal. On ne devrait pas non plus mépriser les réunions de l'Église, là où le peuple est localement assemblé, un peu comme Jérusalem qui est localement située au milieu de ces montagnes. On ne devrait pas mépriser l'assemblée de l'Église, les réunions de l'Église qui sont censées en fait être pour nous les croyants une espèce de havre réconfortant, encourageant. L'Éternel entoure son peuple dans ce texte, verset 2. Il entoure son peuple, il n'entoure pas juste les croyants individuellement. Il ne monte pas une petite palissade autour de chaque croyant individuellement, mais ce sont des montagnes qui entourent Jérusalem, qui entourent le peuple, qui est assemblé ensemble. D'accord ? La deuxième chose que le psalmiste fait dans ce texte, c'est nous dire que si notre vie appartient à Dieu, encore une fois, nous pouvons envisager l'avenir avec confiance parce qu'il n'y a pour nous, en fin de compte, Pas de surprise. Et le verset 3 de ce psaume contient une promesse toute simple, qui est la suivante, c'est que Dieu ne permettra pas que le mal devienne trop fort pour les croyants. Dieu ne permettra pas que le mal devienne trop fort pour les croyants. Dans ce verset 3, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre traduction, si elle est un peu différente de la mienne, mais en tout cas dans la mienne, il y a une expression, le sceptre de la méchanceté. Cette expression désigne un pouvoir inique, un pouvoir méchant, le sceptre de la méchanceté. C'est une façon figurative de désigner un pouvoir, mais un pouvoir inique. Et ensuite, on a une autre expression, le lot des justes. Et cette expression-là désigne en fait ce qui appartient aux croyants, c'est-à-dire l'héritage que Dieu réserve aux croyants, la part qui revient aux croyants. Et donc le psalmiste est en train d'affirmer ici, dans ce verset 3, qu'aucun pouvoir inique ne pourra jamais s'emparer de l'héritage des croyants, ni exercer son autorité dessus. Ça veut dire en gros qu'un jour, on va jamais se réveiller un jour en se disant « Ben zut alors, mon héritage est passé entre les mains de l'ennemi. Flûte, je m'y attendais pas du tout, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Non, ça n'arrivera pas. Pas de surprise, pas de mauvaise surprise pour les croyants. La fin du verset explique pourquoi Dieu ne permettra pas cela. C'est parce que cela aurait pour effet d'inciter les croyants au mal. Si notre héritage passait entre les mains du méchant, ça nous inciterait à suivre le méchant. Imaginez que vous ayez un super plan d'épargne pour votre retraite. Et depuis 40 ans, vous mettez tranquillement et paisiblement un peu d'argent tous les mois dans ce compte épargne, un peu d'argent pris sur votre salaire mensuel. Mais un jour, votre banque que vous aimez bien, que vous aimiez bien, est rachetée par une grosse banque étrangère et sans scrupules. Et les choses commencent à changer pour vous. On commence à vous conseiller de placer votre épargne dans des investissements à risque, en vous faisant miroiter des gains énormes. On vous encourage également à mentir ou à tricher un petit peu sur les intérêts de votre épargne en vue de payer moins d'impôts. Et puis on commence à vous mettre la pression semaine après semaine pour que vous poussiez les membres de votre famille et tous vos amis à eux aussi placer leur argent dans cette même banque avec ces mêmes plans d'épargne, qu'ils entrent dans le système, etc. Bref, lorsque votre banque que vous aimiez bien et avec qui tout se passait très bien a été rachetée, les choses ont changé, vos biens ont été soumis à un régime inique, donc pour reprendre l'image du psaume, vos biens ont été soumis au sceptre de la méchanceté, et par conséquent, vous êtes incité à mal agir. Et quand on observe le monde autour de soi aujourd'hui, on a l'impression parfois que le mal pourrait l'emporter sur les croyants, non ? Vous n'avez pas cette impression des fois ? Quand vous regardez le 20h, vous lisez le journal. Il y a par endroits, aujourd'hui encore, des gouvernements iniques qui tyrannisent l'Église. Et ça a été même le cas dans l'histoire de la France. Ça pourrait le redevenir. Les endroits où les gouvernements tyrannisent l'Église, des gouvernements méchants et iniques. En d'autres endroits, c'est pas tout à fait la même situation. On voit plutôt que l'Église, l'Église, tout en se disant chrétienne, dans ces endroits-là, semble être passée elle-même entre les mains de dirigeants infidèles. C'est-à-dire les prêtres, les pasteurs, n'ont pas du tout l'air de chrétiens. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, cela ? L'Église se dit chrétienne, mais elle semble être passée à l'ennemi. Et dans l'Ancien Testament aussi, le peuple d'Israël a eu des rois infidèles. Le peuple élu de Dieu a eu des rois infidèles. Et même le culte d'Israël a parfois été soumis à des autorités religieuses totalement apostates, infidèles, incompétentes. Le culte de l'Éternel, quoi. Même la terre promise est passée entre les mains d'un pouvoir païen dans l'histoire. Mais malgré cela, le texte affirme quand même que les croyants peuvent envisager l'avenir avec une entière confiance parce que Dieu ne permettra jamais que le mal devienne trop fort pour les croyants. Il ne deviendra jamais trop fort pour les croyants. Il ne remportera jamais la guerre. Il ne deviendra jamais trop fort au point où les croyants n'auraient plus d'autre choix que de se détourner de Dieu. Ça n'arrivera pas. C'est ce que dit aussi l'apôtre Paul, hein. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Dieu est fidèle et ne permettra pas que que vous soyez tenté ou éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Et il s'agit bien sûr, dans ce texte, des croyants au sens authentique, les vrais croyants, ceux qui font entièrement confiance à Dieu, qui lui ont remis les rênes de leur vie, qui aiment le Seigneur sincèrement. Il n'y a pour eux, en fin de compte, pas de surprise, pas de surprise. Les biens spirituels qui nous appartiennent en vertu de notre attachement à Jésus et en vertu de notre appartenance à Dieu, ces biens spirituels ne passeront jamais entre les mains de l'ennemi, malgré tous les changements radicaux qui pourraient toucher notre société et même toucher notre Église. Les biens spirituels qui nous appartiennent en vertu de notre attachement à Jésus, de notre appartenance à Dieu, nous sont administrés comment ? Principalement par le moyen de la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit, pas par des moyens humains. Et c'est pourquoi au psaume 119, le psalmiste qui écrit ce long psaume, le plus long psaume, le plus grand chapitre d'ailleurs de la Bible, le psalmiste se réjouit dans ce psaume de la permanence des Écritures, le fait que les Écritures ne changent pas, même si le monde entier devait changer. Les Écritures, la sainte parole de Dieu ne change pas. Écoutez ce qu'il dit, notamment verset 96 du psaume 119. « Je vois une fin à tout ce qui est parfait. » Mince, les meilleures choses ont une fin, il est en train de dire. « Mais ton commandement est d'une ampleur sans limite. » C'est beau ça. Quelle est donc notre sécurité, notre ancre? Quel est donc le moyen que Dieu a fourni pour notre persévérance, malgré les assauts de ceux qui s'opposent à Dieu? Ce moyen-là, principalement, c'est la Sainte Bible. Et tant qu'on aura la Sainte Bible, c'est-à-dire toujours, on aura toujours la possibilité d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou aux institutions. Ou aux partis politiques. Ou au gouvernement. C'est à la parole de Dieu, pour reprendre un verset de l'auteur aux Hébreux, c'est à la parole de Dieu que nous devons prêter une plus vive attention, dit-il, de peur d'aller à la dérive. C'est à la parole qui nous a été proclamée, ou transmise, ou enseignée, que nous devons prêter une plus vive attention de peur d'aller à la dérive. Hébreux 2, verset 1. Donc, premièrement, pas de danger pour les croyants. Deuxièmement, pas de surprise pour les croyants. Maintenant, la troisième et dernière chose que fait le psalmiste dans ce texte, dans le texte qui nous intéresse, c'est nous faire comprendre que si notre vie appartient à Dieu, nous pouvons donc envisager l'avenir avec confiance aussi parce que nous savons qu'il n'y a en fin de compte pas d'injustice. Il n'y a en fin de compte pas d'injustice. En fait, dans ces deux derniers versets, qu'est-ce qui se passe? Versets 4 et 5, le psalmiste formule une prière. Et il prie pour quoi? Il prie pour la venue du jugement de Dieu. Un jugement qui consiste d'une part à faire du bien aux croyants et d'autre part à châtier ceux qui font le mal. Ce qui est intéressant de remarquer également dans cette prière, c'est que le psalmiste fait un lien entre la paix du peuple de Dieu et ce jugement. Puisqu'il conclut en disant que la paix soit sur Israël, ça découle presque naturellement de ce jugement qu'il invoque de la part de Dieu. Autrement dit, c'est quand Dieu exercera de manière parfaite et universelle son jugement que la paix du peuple de Dieu sera définitivement assurée. C'est quand Dieu exercera de manière parfaite et universelle son jugement que la paix du peuple de Dieu sera définitivement assurée. Le psalmiste sait pertinemment qu'un jour, Dieu va rétablir sa justice dans le monde. Le verset 5, d'ailleurs, pourrait aussi bien être traduit au futur. Peut-être que c'est le cas dans votre traduction. Ceux qui s'engagent dans les voies tortueuses, plutôt que de traduire « que l'Éternel les emmène », on pourrait traduire « l'Éternel les emmènera ». Avec ceux qui commettent l'injustice. Dans certaines traductions, on a le verbe « détruire ». L'Éternel les détruira avec ceux qui commettent l'injustice. Ou « que l'Éternel les détruise ». À travers cette prière, le psalmiste est en train de diriger son regard, et par conséquent le nôtre, qui sommes en train de lire son poème, vers cette réalité qui est future mais certaine. Ces paroles traduisent en fait l'espérance de son auteur, du psalmiste. non seulement son espérance, mais sa confiance en l'avenir, son désir aussi de voir la justice être rendue de façon définitive et parfaite. Vous savez, quand mes enfants se disputent, bon, ça arrive très rarement, mais quand rarement ils se disputent, ils viennent me voir, généralement pour que j'intervienne dans leurs disputes et que, quelque part, je rétablisse la justice, que je rende la justice, vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, moi, je ne suis pas omniscient. Je ne suis pas omniscient et donc j'exerce mes jugements très imparfaitement. Je reconnais, hein. Des fois, dans mes jugements, je suis injuste. Eh oui, parce que je ne suis pas omniscient. Mais imaginez que mes enfants se disputent et qu'ils ne viennent jamais me voir pour que j'intervienne. Et qu'à la place, ils aillent voir le voisin. Qu'est-ce que ça traduirait en ce qui concerne la confiance que me font mes enfants? Qu'est-ce que ça traduirait concernant notre relation, finalement? Un problème, en tout cas, hein, on est d'accord? Et de la même façon, vous savez, quand on lit ces passages des psaumes où on voit l'auteur qui invoque le jugement de Dieu sur ses ennemis, on est parfois un peu dérangé, non? On se dit, mais c'est pas très sympa, ça. Il devrait plutôt tendre l'autre joue, en bon chrétien. Mais en réalité, vous savez quoi? Dans ces passages, c'est exactement ce que fait le psalmiste. Il tend l'autre joue. Ces passages, en fait, révèlent précisément la confiance du psalmiste en Dieu, plutôt qu'en ses propres moyens pour rétablir la justice. Il s'en remet à Dieu pour le jugement, sachant que Dieu est seul capable de juger parfaitement et que lui n'en est pas capable. Il sait que Dieu est le seul capable de rendre justice d'une manière parfaite, sans aucune faille. Sans aucune erreur, pas la moindre petite erreur. C'est l'expression de sa foi, en fait, quand il prie cela, le psalmiste, quand il dit « Seigneur, interviens, fais du bien à ceux qui t'aiment et qui te font confiance, châtie ceux qui font le mal. » C'est la foi du psalmiste, c'est sa confiance, il est en fait en train de tendre l'autre joue, mais de lever les yeux au ciel et de demander l'intervention du Seigneur. Il sait, comment dire, il remet son désir de justice à Dieu, sachant que Dieu saura mieux exaucer ce désir que lui. Il remet son désir de justice à Dieu, sachant que Dieu saura mieux exaucer ce désir que lui-même. C'est ça la foi. La confiance du croyant, c'est de savoir qu'en fin de compte, il n'y aura pas d'injustice. Et est-ce que vous le savez ça, vous aussi, aujourd'hui? Est-ce que vous savez, est-ce que vous en êtes profondément convaincu qu'en fin de compte, il n'y aura pas d'injustice, pas la plus petite injustice? Est-ce que vous vous tournez spontanément vers Dieu lorsque vous constatez l'injustice autour de vous aujourd'hui, lorsque vous allumez la télé à 20h et que, sujet après sujet du journal télévisé, vous trépignez intérieurement, vous avez envie de mettre des coups de poing au poste, je ne sais pas moi, jeter la télé par la fenêtre, quelque chose. Est-ce que spontanément vous vous tournez vers Dieu lorsque vous avez l'impression que le monde part dans tous les sens, en vrille, en cacahuète? Est-ce que vous désirez le jugement de Dieu plutôt que le vôtre? Est-ce que vous priez dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, qui, d'après l'Écriture, lui-même va juger le monde selon la justice? Est-ce que vous priez dans ce sens? Seigneur, reviens bientôt. Mais quand on prie Seigneur, reviens bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Seigneur, reviens bientôt, donne-nous notre héritage à nous qui t'aimons. Mais ça veut dire aussi, ça implique, Seigneur, tu vas juger, châtier ceux qui ne te font pas confiance. C'est ça qui est impliqué dans cette prière. Mais est-ce que vous êtes prêt à accueillir ce jugement vous-même? Est-ce que vous êtes prêt pour le retour du Seigneur, tout simplement? Ce sera le jour de la résurrection des morts, le jour de l'inauguration de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice régnera, où les croyants seront pleinement consolés et où ils vivront éternellement dans la présence glorieuse et bienfaisante de Dieu. Mais ce sera aussi le jour où les incroyants, tous ceux qui n'auront pas reçu le pardon de leurs péchés par la simple et gratuite confiance en Jésus, ce sera le jour où ceux-là devront répondre de leurs actes et de leurs paroles et de leurs pensées. Et ce jugement s'appliquera à tous, des plus petits aux plus grands, des plus jeunes aux plus vieux, des plus pauvres aux plus riches, des plus bêtes aux plus intelligents. Cette réalité doit nous rassurer si nous sommes croyants. Mais elle doit nous inquiéter si nous ne sommes pas croyants. Et pour conclure, je vous posais la question tout à l'heure. Que penser de l'évolution rapide de notre société? Et notamment, qu'en penser en tant que chrétien? Est-ce que vous êtes inquiets parfois de l'avenir de notre pays, de notre société, de votre avenir, de l'avenir de vos enfants? Est-ce que vous êtes inquiets peut-être même pour l'avenir de votre foi? Est-il possible, à cause des transformations radicales que notre société est en train de vivre, est-il possible que les croyants soient en fin de compte engloutis, emportés par ces changements, par ces bouleversements? Est-il possible que vous-même, même en tant que croyant aujourd'hui, est-il possible que vous soyez emporté par le courant un jour? Vous savez, Suzanne et moi, on parle beaucoup de ces choses ces temps-ci. On parle beaucoup de politique à la maison en ce moment avec Suzanne. Heureusement qu'on est plutôt d'accord sur tout. Mais bon, lorsque nous constatons l'actualité, lorsque nous constatons, observons l'évolution de la société, l'évolution des lois dans notre pays, et Suzanne et moi, on a tous les deux la nationalité française, donc ça nous concerne bien sûr, je sais que ça vous concerne pratiquement tous ici aujourd'hui. Parfois on se dit quoi? Parfois on se dit, mais qu'est-ce que ça serait bien de partir loin, sur une île déserte, avec nos amis chrétiens, donc quelques-uns parmi nous, et de s'y installer, et d'y élever nos enfants. Peinard. Loin de ce monde déprimant. Ce serait bien, non? Qu'est-ce que ça serait bien? Eh ben non, en fait, ça serait pas bien. Ça serait pas bien pour deux raisons, principalement. D'abord, parce qu'on ne peut pas fuir sa condition pécheresse. On ne peut pas fuir sa condition pécheresse. Partout où l'homme va, ici-bas, son péché y va aussi. Mais la deuxième raison, principale, c'est parce que cette démarche même, en fait, au fond, contredit la foi. On vient de voir aujourd'hui à travers ce texte que si notre vie appartient à Dieu, en fait, celui-ci a garanti notre avenir. Ce n'est pas nous qui pouvons garantir notre avenir. On ne peut pas le faire ni par nos propres efforts pour transformer la culture autour de nous, ni à l'inverse en nous enfuyant sur une île déserte. On ne peut pas, ni dans un cas, ni dans l'autre, garantir notre propre avenir. C'est Dieu qui a garanti notre avenir, si nous lui appartenons. Si nous avons placé notre entière confiance en Dieu, alors nous pouvons en effet envisager l'avenir avec confiance, parce qu'il n'y a pour nous, en fin de compte, pas de danger. C'est le premier point. Notre sécurité spirituelle est assurée par le sang de Jésus. Deuxièmement, il n'y a pour nous pas de surprise. Jamais Dieu ne permettra que le mal devienne si fort que nous n'ayons plus de choix que de nous détourner de lui. Et enfin, troisièmement, nous savons qu'il n'y aura pas d'injustice en fin de compte. Le jour vient où Dieu fera toute chose nouvelle, pour reprendre un verset de l'Apocalypse, et où il est dit juste après, « Écris, car ses paroles sont certaines et vraies. » Voici, Dieu fera toute chose nouvelle. « Écris, car ses paroles sont certaines et vraies. » Ce que nous désirons lorsque nous disons que nous serions mieux sur une île déserte, lorsque nous nous imaginons cela, ce que nous désirons en fait, lorsque nous souhaitons être retirés de cette société avec nos amis chrétiens, loin du mal et de l'injustice, ce que nous désirons au fond, c'est quoi en fait? C'est le paradis que Dieu nous réserve en réalité. C'est ça que nous désirons. C'est la destination vers laquelle nous nous dirigeons inéluctablement si nous appartenons au Seigneur. Une direction, une destination vers laquelle nous nous dirigeons en dépit de l'évolution de ce monde-ci. Courage et patience donc, car si ta vie appartient à Dieu, il a garanti ton avenir. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce qu'encore une fois, en étudiant ce texte, et c'est vrai que c'est un thème qui revient dans ces psaumes, nous avons pu constater quelle était notre sécurité en tant que croyants, au milieu d'un monde qui part dans tous les sens. Seigneur, heureusement que c'est toi qui gouvernes l'histoire, c'est toi qui gouvernes notre vie, c'est toi qui as déjà garanti notre avenir. et nous pouvons par conséquent, avec ton aide, avec l'aide de ton esprit, avancer et envisager l'avenir avec confiance. Renouvelle cette confiance en nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.